soit glorifié, que son nom soit béni. Tout à l'heure, Antoine parlait d'un homme, d'une mission, d'une vision. Et nous avons vu tous ensemble, nous voyons les faits de ce qu'un homme, de ce qu'une vision a pu faire autour de nous. Et je sais, je crois de tout mon cœur qu'il y a quatre choses pour qu'un ministère réussisse, pour qu'un ministère puisse avoir de l'impact, pour qu'une église puisse avoir de l'impact. Il y a quatre choses qui sont très importantes. La première des choses, c'est la vision. La vision. La deuxième des choses, c'est l'onction que Dieu donne à une personne. La troisième des choses, c'est l'organisation. Et la quatrième, ce sont les finances pour appuyer tout ce travail. Il y a quatre choses qui sont importantes. Et au cours de ces sessions, je vais essentiellement m'appuyer sur la vision, l'onction et aussi le leadership. Et si vous avez déjà la vision, c'est une chose importante. Quand Dieu appelle un homme, il lui donne toujours une vision. Dieu donne une vision. Chaque fois que Dieu appelle un homme, il lui donne une vision. Dieu peut aussi appeler des hommes et des femmes sans vision. Mais si tu n'as pas de vision, travaille dans la vision des autres. Nous allons voir que tout au long de la Bible, de Genèse à Apocalypse, chaque fois qu'un homme se levait, il y avait toujours une vision qui accompagnait ce ministère-là. Toujours une vision. Et nous voulons nous appuyer sur ces choses-là. Nous voulons marcher nous aussi avec la vision que Dieu nous a donnée. On ne peut pas être rassemblé sans vision, sans mission. Mais malheureusement, de plus en plus, nous voyons dans ce monde des organisations, des associations, des unions d'églises, des fédérations qui se mettent en place sans vision. Je crois que la vision, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Nous voulons nous incliner un peu dans la prière. Seigneur, nous prions encore ce matin que ta faveur soit sur nous. Nous prions, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts et que tu parles à chacun de nous. Nous sommes sensibles à ta parole. Bénis ces moments et que, Seigneur, tu nous enseignes encore davantage pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous avons ainsi prié. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous allons lire dans Genèse chapitre 11 et nous lirons les 9 premiers versets. Genèse 11. Les 9 premiers versets. Toute la terre avaient une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisez-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. » afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Allant, descendant et là, confondant leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alors, quand nous lisons bien, nous voyons qu'il s'agit de la construction de la tour de Babel. Nous connaissons bien ce texte. Mais dans ce texte nous donne quelques principes ici dans la Bible. Nous avons quelques principes et je crois de tout mon cœur pour qu'une église, pour qu'un ministère aille de l'avant, pour qu'un ministère réussisse, puisse avoir de l'impact dans la société, il y a des principes à suivre et nous pouvons nous inspirer de ce principe-là pour que notre ministère puisse aller de l'avant. Et si nous utilisons ces principes pour la gloire de Dieu et pour l'Église, les résultats seront immenses, incommensurables, les résultats seront grandioses. Et au verset 6, voici ce qui est dit, et l'Éternel dit, verset 6, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Cela veut dire qu'ils ne peuvent pas échouer parce qu'ils ont trois choses en commun. C'est Dieu qui parle ainsi. Voyez, ces hommes avaient une vision, mais une vision qui ne venait pas de Dieu. Ils voulaient faire certaines choses sans l'accord de Dieu. Mais nous savons que notre vision doit venir de Dieu. Ils avaient une vision, mais qui n'était pas de Dieu. Alors, je fais une parenthèse pour dire ceci, qu'il y a trois types de personnes, de serviteurs que Dieu appelle, que nous pouvons voir dans ce monde. Le premier type, ce sont des personnes que Dieu a appelées dans le ministère, qu'il a oint, qu'il a donné une vision. C'est le premier type. Le deuxième que nous voyons dans ce monde, ce sont ceux qui se sont appelés eux-mêmes, se sont établis eux-mêmes. Et souvent, la vision ne vient pas de Dieu. Ils s'établissent eux-mêmes. Ils disent « Je suis », ils s'autoproclament « Je suis serviteur de Dieu », mais sans vision. Et le troisième type que nous voyons, ce sont ceux que les hommes établissent. À partir d'un certain nombre de circonstances, ils disent bon, « Écoute, on s'est réunis et c'est toi qui es notre berger, notre pasteur, notre évangéliste. » Et sans vision, et c'est possible. Mais nous voyons ici les gens de Babel avaient une vision, mais qui ne venait pas de Dieu. Mais toute vision vient de Dieu, toute vision est donnée par Dieu. Alors, Dieu dit, ce qu'ils ont entrepris maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Vous savez, quand vous avez une vision, rien ne peut vous arrêter. Nous courons avec la vision, nous marchons avec la vision et nous réussirons nécessairement quand nous avons la vision. Ce qu'ils ont entrepris, maintenant, rien ne les empêcherait. Donc nous comprenons ici que quand nous avons une vision, rien ne peut nous empêcher de réussir. Rien ne peut nous arrêter. Et tout ce qu'ils feront va réussir. Donc ces personnes avaient trois choses en commun. La première des choses que Dieu relève ici, que Dieu voit. Alors, je dis même que quand Dieu a vu cela, que ces gens-là étaient en mouvement, avec une vision très forte, la preuve, Dieu a laissé son trône, il est descendu pour venir voir ce que ces hommes étaient en train de faire. Dieu est descendu. Il dit, mais je vais aller voir. Voyez-vous? Cela veut dire que quand il y a la vision de Dieu au milieu de nous, le Seigneur est là. Mais Dieu est venu pour les confondre. Pas pour les soutenir, mais pour les confondre. Ces gens avaient trois choses. La première des choses, c'est qu'ils étaient un seul peuple. Un seul peuple. Cela veut dire qu'ils étaient unis. Et l'unité est la chose essentielle dans un ministère, dans une église, dans une fédération, dans un regroupement d'églises. L'unité, un seul peuple. Si deux personnes s'accordent, il doit y avoir accord. Donc l'unité. La deuxième chose qu'ils avaient en commun, ils avaient une même langue. Une même langue. Ils parlaient le même langage. Cela veut dire la communication. Ils disaient les mêmes choses. Ils se comprenaient dans ce qu'ils étaient en train de dire. On peut être ensemble, mais avec des voix discordantes. Chacun dit ce qu'il veut. Et chacun reçoit sa révélation, chacun fait ce qu'il veut. Mais là, ils avaient une seule langue. Ça veut dire qu'ils communiquaient les mêmes choses. Troisième chose qu'ils avaient en commun, ce qu'ils avaient entrepris, c'est la vision. Ce qu'ils ont entrepris, c'est la vision qu'ils avaient. Donc ces gens de Babel avaient trois choses. Et si nous voulons aujourd'hui que l'œuvre que Dieu nous a donnée, l'église que Dieu nous a donnée, le ministère que Dieu nous a donné réussisse et que cette œuvre-là soit une œuvre puissante, efficace et puisse avoir de l'impact dans la société. Oui, notre désir, c'est que notre ministère puisse avoir l'impact. L'église puisse avoir l'impact, que les gens voient. Si nous voulons que l'œuvre puisse avoir de l'impact dans la société et porter du fruit durable pour la gloire de son nom, il faut bâtir l'œuvre sur ces trois principes. Nous avons besoin de bâtir l'œuvre sur ces trois principes. Premier principe, l'unité. Deuxième, la communication. Et troisième, la vision. Amen. Trois principes qui sont importants. Ils avaient une seule vision, une vision unique, les gens de Babel. Alors, on peut se poser la question, je m'appesantirai ce matin dans ce texte sur la vision, dans mon intervention, sur la vision. On peut se poser la question de savoir, mais comment avoir une seule et unique vision? Comment avoir la vision? Alors, dans Osée chapitre 4, au verset 6, il est dit ceci, comment avoir une vision? Il est important que nous puissions avoir une vision. Comme je disais d'entrée, Dieu ne peut pas faire lever un homme sans vision. Nous allons voir de Genèse à Apocalypse, chaque fois que Dieu faisait lever un homme, il avait une vision. Noé avait une vision. Abraham avait une vision. Certains prophètes dans l'Ancien Testament avaient une vision. Jean-Baptiste avait une vision. Et aujourd'hui, Dieu continue à le faire. Osée chapitre 4, verset 6, il est dit ceci, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » On peut dire parce qu'il lui manque la vision. Vous voyez, certaines versions disent cela. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et nous voyons la suite de la phrase. « Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. » Oui, ça c'est la vision aussi fait partie de la loi de Dieu. Je te dépouillerai, je te rejetterai. Donc nous avons besoin d'être acceptés par le Seigneur parce que nous sommes porteurs de quelque chose. Mon peuple est détruit. Voyez-vous? La version dit détruit. Et nos églises aujourd'hui sont détruites, sont faibles. Parce qu'à la base, il n'y a pas de vision. Et certaines versions disent ceci. Là où il n'y a pas de vision, de révélation, le peuple est sans frein. Certaines versions disent, là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Sans frein, ça dit qu'on peut aller dans tous les sens. Tous les sens. Une autre version dit ceci, là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans motivation. Sans motivation. Qu'est-ce qui peut encourager l'Église? C'est la vision que nous avons reçue de la part du Seigneur. Une église qui a une vision, les gens sont motivés parce que quand nous prions, nous savons pourquoi nous prions. Parce qu'à la base, il y a une vision. Quand nous donnons nos biens matériels et financiers, nous savons pourquoi nous donnons cela. Parce qu'à la base, il y a une vision. Quand nous sommes en train de soutenir le pasteur, nous le faisons avec joie et zèle parce qu'à la base, nous savons qu'il y a une vision. Et quelquefois, on vient dans une église, les gens sont fatigués, sans motivation, parce que, mais où est la vision? Tu viens dans une église, après ta guérison, après que tu sois restauré, tu as accepté le Seigneur, qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Il n'y a plus rien. Et les gens se croisent les bras et disent, bon, ben, j'ai tout reçu, je suis là. Mais si tu viens dans l'église et que tu es guéri, tu es délivré, tu es restauré, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entrer dans la vision. Mais comment entrer dans la vision si nous n'en avons pas? Si la vision n'a pas été clairement définie? Si nous ne savons pas ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'on va faire? On sera sans motivation. Et nous tombons dans une routine. On vient aux réunions, c'est réunion sur réunion. C'est vrai, on adore, on chante, on loue. Et on s'arrête là. Le peuple est sans motivation. Pas la motivation d'aller gagner les âmes. Si vous avez la vision de gagner les âmes. Pas de motivation pour implanter les églises. Si c'était votre vision. Voyez-vous, pas de motivation pour enseigner, susciter le ministère, former les ouvriers, si c'est votre vision. Et une autre version dit ceci, là où il n'y a pas de vision, le peuple n'a pas d'enthousiasme. Ça veut dire que le peuple n'est pas enflammé, le peuple ne va pas de l'avant, n'a pas d'enthousiasme. Donc la vision, si on peut définir la vision, C'est la compréhension de ce que Dieu veut faire dans une vie ou dans la vie des hommes. La vision, c'est la compréhension de ce que Dieu veut faire. C'est aussi la compréhension du plan de Dieu. Et moi, j'aime bien définir la vision comme étant un fardeau, une responsabilité que Dieu donne à un homme ou à des hommes. Alors, quelquefois, quand nous parlons de la vision, certaines personnes croient que recevoir une vision, c'est avoir vu une flamme. Non, ce n'est pas toujours cela. Pour certaines personnes dans la Bible, ça s'est passé de cette manière-là. Je n'ai pas vu la lune, je n'ai pas vu le soleil, je n'ai pas vu une lumière, je n'ai pas vu un ange apparaître, je n'ai rien vu de tout cela. Mais dans mon cœur, parce que l'Esprit du Seigneur atteste à mon esprit, dans mon esprit, je sais ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Dieu m'a distinctement parlé. Et vous savez, quand Dieu parle, on ne se trompe pas. Nous avons la paix. Il y a des signes. Il a déposé quelque chose sur mon cœur. Donc, c'est un fardeau. Je ressens cela. C'est Dieu m'a donné cela. Et dans mon comportement, dans ma vie, dans mes prières, cela se ressent que Dieu m'a donné une vision. Vous savez, une vision, c'est quelque chose qui est en vous. Vous la portez. Vous la comprenez. Donc, c'est un fardeau, une responsabilité que Dieu donne à un homme. Vous savez, Dieu a des plans. Dieu a des objectifs qu'il veut réaliser dans ce monde. Vous savez, Dieu a des plans pour la métropole lilloise. Dieu a des plans pour la Belgique. Dieu a des plans pour l'humanité. Dieu a des plans pour cette église. La source, la porte étroite, ceux qui sont à Waterloo. Dieu a des plans. Mais ne pouvant pas descendre lui-même d'une manière spirituelle pour venir accomplir ses projets, ne pouvant pas laisser son trône de gloire et venir pour accomplir ce projet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cette vision et il va la donner à un homme. Et cet homme maintenant reçoit cette vision. Et quand cet homme a reçu cette vision, il a la responsabilité de la mettre en pratique, il a la responsabilité de la communiquer. De la communiquer, la responsabilité de communiquer cette vision. Et lorsque Dieu donne une vision, il ne donne pas une vision vague. Dieu ne donne pas une vision confuse. La vision du Seigneur est toujours claire, très claire. Nous pouvons relire dans la Bible. Quand il a parlé à Abraham, c'était clair. Quand il a parlé à Moïse, c'était clair. Quand il a parlé à Jean-Baptiste d'aller préparer le chemin du Seigneur, voilà, c'était la vision, c'est clair. Quand il a parlé à Paul, la vision était claire. Une vision reçue du Seigneur est claire et précise. Il m'arrive souvent de poser des questions aux serviteurs de Dieu, aux ministres de Dieu, ceux qui se réclament ministres de Dieu. Et souvent, je me dis, mais quelle est ta vision ? Souvent, je pose la question, quelle est ta vision ? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Alors là, les réponses souvent sont confuses. Une fois, un pasteur m'a dit, non, mais Dieu m'a dit je suis pour l'évangélisation mondiale. J'ai dit, oui, c'est une bonne chose. Ça, c'est la grande commission. Et tout le monde, c'est l'Église entière qui est appelée à faire cela. Mais d'une manière distincte, dans ton ministère, dans ta vie, qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire ? Dieu ne peut pas faire lever un homme sans vision. Si tu n'as pas de vision, va travailler dans la vision des autres. Il doit y avoir quelque part un homme qui a une vision. Et Antoine disait ce matin que nous avons vu ces réunions commencer par Vincent. Ah, vous savez, nous avons peur de citer les noms des personnes. On se dit, ah non, mais nous restons. Non, il y a toujours un porteur de vision. Il y a toujours un porteur de révélation. Dieu utilise toujours un canal. Il y a un homme qu'il va susciter pour qu'il soit le porteur de la vision. Et beaucoup de personnes, si nous interrogeons aujourd'hui des pasteurs, des hommes de Dieu, s'il y a une centaine, je peux vous assurer certainement, je ne veux pas être méchant, qu'il peut y avoir près de la moitié qui n'ont pas de vision. Et d'abord qui ne savent pas ce que c'est, qui ne comprennent pas, qui doivent travailler avec une vision. Si on pouvait faire un sondage parmi les pasteurs, si on pouvait regarder même nos fédérations d'église, mais on se retrouve ensemble parce que nous avons une vision. S'il n'y a pas de vision, le peuple sera sans motivation. La fédération n'aura pas d'impact. L'église n'aura pas d'impact. On est là entre nous, c'est vrai. On se fait du bien, on se retrouve. Mais il n'y aura pas quelque chose qui pourra avancer. Et toute vision reçue du Seigneur est claire. Claire. Et les gens peuvent facilement comprendre et circonscrire le cadre de cette vision. Alors, si nous partons au verset 4 de Genèse 11, nous étions là, il est dit ceci, voilà la vision qu'avaient reçue, qu'avaient les gens de Babel. Ils ont dit ceci, bâtissons, verset 4, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Voilà, ça c'était leur vision. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. C'était leur vision. Elle était claire, elle était précise. Ils savaient exactement ce qu'ils devaient faire. Et tous ceux qui étaient venus, tout ce peuple, s'étaient retrouvés autour de la vision. Une vision claire en une phrase. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Alors, vous allez voir la suite. Ce sont un peu les objectifs qu'ils avaient. Faisons-nous un nom et afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Dieu donne une vision. Une vision doit avoir des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Il y a un but à atteindre. Il peut y avoir un but ou il peut y avoir plusieurs buts. Donc, vision, une seule vision, mais avec un ou plusieurs objectifs à atteindre. Mais quel était leur objectif? Ils ne voulaient pas, ils voulaient se faire un nom. Et ils ne voulaient pas être dispersés sur la face de la terre. Voilà les objectifs qu'ils avaient. Et nous lirons plus tard que Dieu est descendu et les a dispersés parce qu'ils ne voulaient pas. Et c'était quelque chose de fort. Ouais, et c'était contraire, malheureusement, à la volonté de Dieu. Donc, il y a une vision, il y a un objectif. Et nous verrons plus tard qu'ils avaient des stratégies. Ils avaient des stratégies. Donc, vision, objectif, stratégie. Les stratégies sont là pour nous permettre d'atteindre les objectifs. Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, leur stratégie était quoi? Bâtir la ville, faire une tour. Mais qu'est-ce qu'il fallait? Des briques. Ils ont dit, prenons de l'argile avec des briques, cuisons-les au feu, et il y a la bitume, et ça nous servira de ciment. Donc, c'était les stratégies. Vision, objectif, pour ne pas être dispersé, mais les stratégies. Les stratégies pour nous permettre d'atteindre cet objectif. Les stratégies pour permettre que la vision se concrétise. Et ces choses, dans une église, doivent être claires. Et le porteur de la vision doit connaître ces choses et les transmettre. N'importe qui vient à l'église, la première des choses sur nos dépliants, il devait y avoir les objectifs. Et plutôt la vision avec des objectifs et les stratégies. On peut ne pas les publier, mais tout le monde qui vient doit connaître la vision dans l'église. Nous expliquons notre fonctionnement, mais nous disons aussi que nous avons une vision. Nous nous retrouvons ici parce que nous avons une vision. Et pendant nos affermissements, nos classes d'affermissement, nous expliquons que nous avons des objectifs, que nous avons des stratégies. Tu es venu au milieu de nous, accepte notre vision. Donc, ces gens-là avaient une vision et ils sont engagés en âme et conscience à pouvoir travailler à la réalisation, la compréhension de cette vision. Alors donc, pour que l'œuvre de Dieu réussisse, puisse aller de l'avant, il faut que toutes les personnes impliquées dans l'accomplissement de cette œuvre aient une unique vision, puissent avoir une seule vision. Toutes les personnes dans l'Église qui sont impliquées devraient avoir, doivent avoir une seule vision. Une seule vision. Alors, dans Amos chapitre 3, au verset 3, il est dit ceci. Amos chapitre 3, verset 3, il dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Donc, nous devons tous ensemble, qui sommes impliqués dans la vision, avoir une seule vision. Deux hommes marchent ensemble sans être convenus. Donc, pour aller ensemble, nous sommes dans une même église, nous devons nous mettre d'accord. Nous sommes dans une fédération d'églises. Chaque église qui vient adhérer à la fédération doit être d'accord avec la vision. Nous sommes une union d'église. Tous ceux qui font partie de cette union d'église devraient être d'accord avec la seule vision que nous avons. Vous savez, souvent on vient chacun à sa vision. C'est vrai, Dieu nous a appelés. Il y a un appel particulier. Mais cet appel doit pouvoir s'intégrer dans la grande vision que Dieu a donnée à cette fédération ou à cette union d'église. À la base, il y a une vision. Mais localement, il peut y avoir une vision par rapport au contexte dans lequel nous vivons. Voyez-vous, le contexte du Nord, je présume qu'il doit être différent un peu du contexte parisien. Mais nous avons une vision d'ensemble dans notre union d'église ou dans notre fédération. Mais maintenant, à Paris, toute la banlieue parisienne et ceux qui sont au Nord, il peut y avoir certains changements par rapport au contexte. Mais la vision est là de base. Par rapport au sud de la France, il peut y avoir certaines différences, mais la vision d'ensemble est là. Nous ne pouvons pas marcher ensemble tant que nous ne sommes pas mis d'accord sur la vision, sur l'unique vision, sur la même vision. J'insiste bien, c'est important. Et nous allons le revoir tout à l'heure. Il y a souvent des problèmes parce que les visions ne sont pas identiques et les visions ne sont pas acceptées. Donc, il y a trois choses importantes pour qu'une vision réussisse. Trois choses. La première, c'est la fidélité. La fidélité à la ligne tracée par le Saint-Esprit en vue de l'accomplissement de son œuvre. Première des choses, c'est la fidélité. Alors, qu'est-ce qu'on voit généralement? Nous sommes ensemble. Dieu nous appelle pour être des gagneurs d'âmes, c'est-à-dire évangéliser, aller de porte en porte. Au départ, nous sommes certainement cinq. Dieu nous a unis avec un homme qui a une vision. Et nous avions eu une vision unique, un but précis. Nous courions tous dans la même direction. Mais alors, si quelqu'un d'autre se présente au milieu de nous avec une autre vision, une vision différente de la vision que le Seigneur nous a donnée, alors, en ce moment-là, la personne qui nous a rejoint avec une autre vision, qui n'est pas notre vision, cette personne-là devient une source de tension au milieu de nous. Et c'est ça, généralement, qui se passe. C'est pour cette raison que nous expliquons la vision chez nous. Si tu n'es pas d'accord avec la vision, tu vas dans une autre église. Si tu n'es pas d'accord avec la vision de notre union d'église, tu vas dans une autre union d'église. La personne qui vient avec sa vision, ça sera une source de tension. Vous pouvez être dans une même fédération, mais il y a comme une tension à la base. Et on reste là, mais avec une tension. Et il va y avoir donc une double vision. Chacun va tirer de son côté et on ne va plus avancer. On est là, on ne peut pas quitter, mais nous n'avançons plus. Chacun tire, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est ce que le prophète Amos nous dit, que deux personnes ne peuvent pas avancer dans la même direction s'ils ne sont pas d'accord. Deux personnes ne peuvent pas avancer. S'ils n'ont pas une même vision, ce n'est pas possible. Si on n'a pas une même vision, mais il peut y avoir un corps avec plusieurs têtes. Dans une fédération, on peut avoir plusieurs visions. Il y a deux têtes, un corps avec deux têtes. C'est un monstre. Et souvent, nos fédérations sont des monstres. Nos unions d'église sont des monstres. Nos associations, quelquefois même nos églises. Et quelque part, j'ai déjà vu, on retrouve une église dans une église. Vous avez une église, mais dans cette église, il y a encore des petits groupes qui se forment à l'intérieur avec des visions. Et ça devient des monstres. Et c'est le problème que nous connaissons, tous. Dieu a voulu par sa grâce nous mettre ensemble et nous devons être fidèles à la vision que Dieu nous a accordée. Dieu va faire lever une personne avec une vision, acceptant la personne. Et Moi, je fais toujours la différence entre le ministère reçu, ce que Dieu a mis dans la personne, et le caractère de la personne. Souvent, nous confondons les choses. Nous sommes des êtres imparfaits. Moïse était imparfait. Il était vu comme un homme de colère. Mais il avait reçu une vision de Dieu. Et il avait les hommes autour. Ouais, donc, il peut y avoir un aspect de la vie qui est désagréable pour certains. C'est sûr, Dieu peut m'envoyer ici. Moi, je suis africain, avec mon éducation, avec mon contexte culturel, social dans lequel je viens. Et me retrouver en France, c'est sûr, qu'il y aura des choses qui ne plairaient pas à certaines personnes. Mais vous savez, l'essentiel, ce n'est pas cela. L'essentiel, c'est ce que Dieu a mis dans la personne. Qu'est-ce que Dieu a donné à la personne? Dieu peut faire lever une personne au milieu de nous. Mais je ne verrai pas son caractère, je ne verrai pas ses défauts. Peut-être le péché, oui, je n'accepterai pas son péché. Mais le reste, je peux faire table rase, je dis, mais j'accepte la personne telle qu'elle est. Parce que la personne a quelque chose de Dieu. Il peut nous conduire loin. Vous savez, de plus en plus, nous avons besoin des leaders. Et nous verrons cela tout à l'heure. Des hommes qui peuvent nous conduire loin, qui peuvent faire avancer l'œuvre. Si on se retrouve entre nous, dans une fédération, sans vision, sans porteur de vision, qu'est-ce qu'on va devenir? Un club d'amis. On est là entre nous. Mais qui donne l'ordre? Qui va dire d'avancer? Personne. Et sachant que l'Église, ce n'est pas la démocratie. Ce monde nous influence. Nos contextes dans lesquels nous vivons nous influencent. Et nous pensons que l'Église, c'est la démocratie. Nous avons une décision, un point de vue, on va le mettre sur la table. Et chacun va commencer à décortiquer, à analyser, à raisonner. Et finalement, ce que nous voulions faire ne sera pas fait parce qu'il n'y a pas un consensus. Mais Dieu ne passera que par une personne, même si nous sommes nombreux. Et que vous le voulez ou pas, Dieu passera par une personne. Si c'est le leader, nous l'acceptons comme leader, le porteur de la vision, nous l'acceptons. Dieu passera par nous. Quand il veut nous utiliser, il passera par lui. Et je reçois la révélation de Dieu, je viens partager cela aux autres. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous commençons à prier pour que chacun de nous puisse aussi capter, recevoir, accepter et comprendre cette vision. Et ensemble, maintenant, nous allons avancer. Nous avons besoin d'être fidèles à la ligne tracée par le Saint-Esprit. Et souvent, on peut avoir reçu une vision. Après quelques années, nous ne sommes plus fidèles. Nous abandonnons la vision initiale, la vision originale qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Nous l'abandonnons. Et après, d'autres choses viennent. Généralement, peut-être pas ici en France, mais dans mon pays, je vois souvent, nous voulons imiter les autres. Tu as reçu une vision au départ qui était très bonne, tu avances et... Quand on a une vision, il y aura toujours des difficultés. Mais devant les difficultés, certains veulent dire, « Ah non, mais moi je ne peux plus, je préfère faire comme l'autre, parce qu'on a vu l'autre. » Mais chacun de nous a une grâce, on n'est pas identique, nous ne sommes pas des photocopies. Et on ne peut pas comparer les églises et les ministères. « Ah non, parce qu'il a fait, ils sont en train d'évangéliser, nous aussi on va dans l'évangélisation. » Mais ce n'est pas la vision que Dieu nous a donnée. Dans mon église, nous n'avons pas grandi par l'évangélisation. Nous avons grandi par la formation des ouvriers, simplement. Ceux qui venaient, je commençais à enseigner. J'ai beaucoup enseigné. Et nous avons grandi comme cela. Et cela a été appuyé par le travail de la délivrance, les deux. Voyez-vous? Donc c'est ce que Dieu m'a donné. Moi, je ne suis pas allé dans les rues distribuer les prospectus. Il y a à peine 5 ans que j'ai commencé à faire des grandes réunions publiques. La première, c'est au stade où nous avons rassemblé 20 000 personnes. Et la deuxième, j'ai commencé à en faire un peu partout. Mais avant, en commençant mon ministère, je n'ai pas évangélisé. Alors, si vous me dites maintenant qu'il fallait évangéliser, mais je n'aurais pas eu le ministère que j'ai actuellement. Et je ne peux pas copier une autre personne. Et si une personne veut faire comme moi, en s'appuyant sur la délivrance, la prière et la formation, cet homme ne réussira pas. Voyez-vous, donc, Dieu donne des grâces à chacun de nous. Et les ministères sont complémentaires. Amen. Voyez-vous, ce que je n'ai pas, je vais aller le chercher chez l'autre. Je dis, mais écoute, ça me manque, viens nous apporter cela. Et dans mon ministère, j'ai souvent fait appel aux autres ministères. Moi, je ne suis pas un prophète. Et quelquefois, une fois par an, je fais appel à un prophète qui vient dans l'église, qui a besoin un peu de pointer le doigt à tout le monde. Nous, on en a besoin. Et quelquefois, j'ai besoin d'un évangéliste qui vient un peu pour remuer l'église. Et à un autre moment, j'ai besoin aussi d'un autre ministère apostolique pour venir voir si le fondement est toujours bien posé. Voyez, donc, nous avons besoin des uns et des autres. Nous devons rester fidèles. Restons fidèles à la vision. On peut aller assister à une convention ou à une convention, on revient. On veut faire les choses qu'on a vues dans cette convention. C'est que ça veut dire que vous n'avez pas de vision. Ah non, il y a des choses certes qui sont bonnes, que j'ai entendues, ça me fait du bien, on peut les prendre. Mais je ne peux pas changer de cap. Et souvent après, on dit oui, nous voulons tout maintenant remettre en cause. Non, reste dans la vision que Dieu t'a donnée. Restons fidèles dans cette vision. Deuxième chose pour qu'une vision réussisse, c'est la persévérance. Alors il faut des sacrifices pour l'accomplissement de la vision. Il faut des sacrifices, il faut de l'effort, il faut payer le prix. La persévérance. Alors moi, j'entends en France ici, les gens diront, ah oui, mais les gens ne veulent pas souffrir. Ah, mais c'est vrai, ça se voit. Je vous comprends parfaitement. L'Europe a beaucoup travaillé, la prospérité est là, les gens veulent se reposer. Mais dans le domaine spirituel, c'est pas comme cela. Ah non, ah, ne confondez pas les choses, ça c'est tout à différent. On n'a pas encore fait un travail. Il y a un peuple nombreux que Dieu nous a réservé. Et le Seigneur tarde à revenir parce que ce peuple n'est pas encore venu vers nous, n'a pas encore accepté le Seigneur. Mais comment se reposer? Nous avons besoin que nos salles, que les âmes viennent, que ces salles soient remplies. Moi je crois de tout mon cœur que nos églises soient comme des ruches où tout le monde est là en train de travailler, que ça bouge. On peut faire dans cette salle deux réunions, trois dans la journée. Deux le matin, une réunion l'après-midi en soirée. C'est possible. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec moi là? C'est possible. Mais comment se reposer? Mais il faut payer le prix. Quels que soient les continents, les nations, pour l'œuvre de Dieu, il faut payer le prix. Nous allons le voir certainement dans la deuxième ou troisième session. Payons le prix. Il faut la persévérance. Et Néhémie, qui avait reçu une vision précise, qui était de reconstruire la muraille autour de Jérusalem, et quand ils avaient compris la vision, ils se sont dit, levons-nous et bâtissons tout le peuple. Et en bâtissant, il y avait des contraintes, il y avait des difficultés. Voyez-vous? Ils avaient la truelle à la main et la lance de l'autre. Ils travaillaient en même temps et ils combattaient. Donc pour cela, donc, il fallait de la persévérance parce que l'ennemi était là. Il les acculait, il ne voulait pas qu'ils puissent reconstruire les murs de Jérusalem. Et il faut de la persévérance. Elle commence par les responsables que nous sommes, les ministères que nous sommes. Dieu ne verra pas le peuple. C'est nous qui devons être persévérants. Troisième chose pour qu'une vision réussisse, ce sont les stratégies. Je disais tout à l'heure qu'il y a une vision que Dieu vous a donnée, vision claire, précise. La vision de l'Église peut être exprimée en une phrase ou en deux phrases. Ça, ce n'est pas d'écrire des longues phrases. Dieu peut vous dire beaucoup de choses, mais résumer en une seule phrase ou en deux phrases, peut-être même en trois, c'est tout. Une vision précise, claire. Donc, voilà la vision des gens de Babel. Ils se dirent l'un à l'autre, leur vision était de construire la ville avec une tour. Mais ils avaient une stratégie. Ils ont dit ceci. Elle se trouve au verset 3, la stratégie. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Donc faisons des briques. Parce que pour bâtir la ville, il faut des briques. La vision était là. Bâtir la ville et la tour. Mais avec quoi? Donc ce sont des stratégies que Dieu donne. Si Dieu vous a donné la vision de l'évangélisation, mais quelles sont les stratégies qu'il vous faut maintenant? Il dit, votre vision c'est évangéliser de porte en porte. Aller de porte à porte pour apporter les prospectus. Ça peut être la vision que Dieu vous a donnée. Elle est claire, nette. Mais quelles sont les stratégies? Comment faire? Comment faire? Comment procéder? Donc pour eux, pour bâtir la ville, il fallait des briques. Mais les briques ne suffisaient pas. Voilà les stratégies maintenant. Il faut des briques. Ça veut dire qu'il fallait la terre ou l'argile, hein, et commencer donc à construire des briques. Et ensuite, maintenant, et pour fabriquer des briques, il y a toute une stratégie derrière. Hein. Il faut faire des moules. Hein. Ah oui, il faut des moules. Certainement en bois ou chez nous aussi on les fait en bois ou en fer. Et tout ça, ça demande des stratégies. Il y a des personnes spécialisées. Donc, quand vous avez une vision, chacun de nous a une tâche à l'intérieur. Il y a des gens qui avaient la tâche de confectionner les moules. Il y avait des personnes qui avaient la tâche simplement de mettre l'argile dans ces moules pour sortir les parpaings. Et Ils disent, mais comme c'est des briques en argile, il faut les cuire. Cuisons-les pour que ça puisse se solidifier. Et la brique leur servit de pierre et il fallait aussi le bitume qui devait leur servir de ciment. Alors, pour superposer les briques les unes sur les autres, il fallait le bitume. Donc, ils avaient besoin du bitume. Donc, c'était des stratégies que Dieu leur a données. Dieu donne la vision, il va donner la stratégie pour accompagner cette vision. Il vous donne la vision de former des ouvriers, des serviteurs. Ça, c'est votre vision. Il dit former des ouvriers. Mais quelle est votre stratégie? Comment faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Quel temps? Quels sont les outils? Quels sont les moyens? À quel moment? Quelle période? Donc, il y a toujours des stratégies. À chaque vision, il y a une stratégie. On peut avoir la vision, c'est bien, mais il faut avoir des stratégies. Les stratégies, c'est comment mettre en marche, comment faire pour atteindre les objectifs. Et les gens de Babel savaient ce qu'ils devaient faire et comment le faire. Comment le faire? Bâtir la ville, ils savaient comment faire. Bâtir la tour, ils savaient maintenant comment faire. Voilà pourquoi Dieu a dit, tout ce qu'ils ont entrepris va réussir et personne ne peut les arrêter. Quand vous avez la vision, vous avez les stratégies, personne ne peut vous arrêter. Moi, j'entends souvent dire dans mon pays, les gens disent, oui, il a pris ma vision. Mais on ne peut jamais prendre votre vision. Jamais. C'est quelque chose d'abord de un que vous portez en vous. Et deuxièmement, les stratégies, si vous n'avez pas reçu la révélation de Dieu, vous ne pouvez pas accomplir cette vision-là. Jamais. C'est une question de révélation. Je reçois, je la communique. Mais une personne qui vient ne peut pas venir prendre la vision. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Nous allons faire la première pause. À moins qu'il y ait des questions à poser, nous allons enchaîner de suite. S'il y a des questions, nous pouvons nous arrêter là. Sur la vision. Tu parles un peu fort, tu peux te lever. Ah oui, une vision peut venir d'un verset biblique. Et il est même souhaitable d'appuyer votre vision par un verset biblique. Hein? Et si Dieu vous l'a donné. Et moi, j'ai aidé certaines personnes à écrire leur vision. Et nous allons voir cela tout à l'heure. Tout à l'heure.
Il faut aussi préciser que ces visions-là doivent adhérer à la vision générale.
Oui, cette vision. Oui, mais dans le cas d'une église, une personne, nous tous ici, on ne peut pas avoir une vision. Je suis dans une église, le porteur de la vision, c'est qui? C'est le pasteur. Toi, tu as un appel. Et cet appel-là doit entrer dans la vision reçue par ton pasteur. Donc Dieu ne va pas distribuer les visions à tout le monde, non. Ah non, il n'y a qu'un porteur de vision, un seul porteur de révélation, ce n'est pas tout le monde. Nous voulons être pratiques là, nous sommes entre les ministères, s'il y a des questions à poser. Tu me passes mon sac, s'il te plaît, Antoine. J'ai quelque chose à prendre là-dedans. Merci. Est-ce qu'il y aurait une question à poser? Oui.
Si tu as la vision d'implanter des églises, les gens que tu mets en place dans les églises que tu as implantées, est-ce qu'ils auront leur vision ou la vision de celui qui a implanté l'église?
Ah non, si nous avons à la base une seule vision et que nous commençons à implanter l'église, par exemple, la vision a été reçue ici à la source, je prends un exemple, par l'intermédiaire d'Antoine. Et Dieu nous amène dans un travail d'implantation d'église. Nous allons à Fouquières, ou nous allons à Lens, ou à Valenciennes, ou ailleurs. Mais toutes les églises implantées doivent reproduire la vision de base, la vision initiale. C'est vrai, il y aurait des petites nuances par rapport au contexte local, mais la vision, le tronc doit rester là. Le tronc doit rester là. Et si une personne va reproduire notre vision, mais il n'est plus avec nous. Il n'est plus avec nous, ça c'est clair. Et nous devons avoir la même vision. Même s'il doit aller à Paris ou au sud de la France, même s'il change de pays, il doit amener la vision. Une personne peut partir d'ici avec la vision qu'il a reçue ici en Europe. Mais c'est vrai, il peut aller en Afrique, mais avec le contexte, il y aura certaines variantes. Mais la vision de base reste là. Je vous propose un deuxième texte dans Exode, au chapitre 3, s'il vous plaît. Avant qu'on puisse faire la pause. Exode, et là je voudrais parler du leader et la vision. Parce que, vous savez, nous avons peur du mot leader, le lead. Le lead, c'est celui qui a la tête. On a souvent peur de ce mot, le leader, le chef. Ah là là. Mais je crois que ces choses-là doivent être claires dans notre esprit. Dans un groupe, il y a toujours une personne que Dieu met à la tête. Il peut y avoir plusieurs ministères d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de docteurs, de pasteurs. Mais au milieu de ces cinq ministères, Dieu va toujours susciter un porteur de vision. Est-ce que vous me suivez? Toujours une personne. Et ce sera lui le leader. Et dans cette équipe de ministère, cette équipe apostolique, Dieu va donner la vision à une personne. Et les autres seront d'accord avec la vision et ensemble, ils pourront marcher. Exode chapitre 3, nous lirons les 10 premiers versets. Ça, c'est la vision que Moïse a reçue de la part de Dieu. Et nous allons voir que dans cet exemple, que cette vision est claire, nette et précise. Et Moïse sera le leader du peuple d'Israël. Dieu n'appelle pas des milliers de personnes au même moment, non. Il choisit une personne. Verset 1 dit ceci. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Alors écoutez bien, le cas de Moïse, c'est l'ange qui est apparu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers et tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Allez, verset 7. L'Éternel dit, donc il parle à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Verset 9, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10, maintenant va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. La vision que Moïse avait reçue de Dieu se trouve là au verset 10. Je t'envoie vers Pharaon pour sortir les enfants d'Israël, l'Égypte. Et la vision que Moïse avait reçue était claire. Dieu fait d'abord un constat. Il dit que les cris, les souffrances de ce peuple-là est monté vers moi. Et j'ai vu, c'est pour cette raison que je suis descendu. Dieu donne une vision par rapport à un problème dans une nation, dans une ville, dans une région, dans un département ou dans les nations. Il y a une préoccupation, il y a une situation. Et Dieu, par rapport à cela, fait lever une personne avec une mission précise, avec une vision précise. Donc quand un ministère se lève avec une mission. On voit que Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père. Et c'est en ce moment-là que Dieu l'appelle. Dieu avait déjà préparé cela d'avance. Il connaissait Moïse. Et le temps était venu maintenant que Moïse puisse entrer dans la destinée que Dieu avait préparée pour lui. Et beaucoup d'églises, beaucoup de ministères, comme je disais tout à l'heure, d'union d'églises, sont tombés en faillite par manque d'une vision de l'œuvre. Quand aujourd'hui vous lisez les statuts de beaucoup de fédérations, d'associations, d'unions d'églises ou d'églises, vous ne verrez pas clairement mentionner la vision. Les gens ne vous diront pas qu'on s'est retrouvés parce qu'autour il y a une vision. Et ces fédérations ou ces églises sont tombées en faillite. Donc la vision, c'est un élément crucial de l'église. J'insiste beaucoup. Et les églises qui réussissent aujourd'hui, ce sont les églises à la base qui ont une vision. Les fédérations qui vont de l'avant aujourd'hui, ce sont les fédérations qui, à la base, ont une vision. Et dans une église, c'est le leader qui conduit le véhicule, si on peut parler ainsi. C'est le pasteur, s'il y a un pasteur, c'est le ministère qui est là, ça peut être un prophète, un apôtre, un évangéliste. C'est lui qui est à la tête du mouvement, voyez-vous, que Dieu a choisi, c'est lui qui doit conduire. Donc il est souhaitable, peut-être qu'il faut, c'est trop fort, mais il faut une direction forte. Ah oui, moi je le crois. Une direction forte, une direction marquée, hein, quelque chose qui nous donne l'assurance. On peut être dans une fédération, mais on sent qu'il n'y a pas d'assurance. Dans une église, qui conduit le véhicule? Qui entraîne? Qui est le moteur? On peut avoir un beau train avec des jolis wagons, des jolies couchettes, mais il n'y a pas de tête. Pas de tête. Mais qui va entraîner? Et dans une église, c'est comme cela. Qui va entraîner les autres? Donc, il faut une direction forte, une direction qui donne l'assurance. Il faut que le conducteur puisse réellement conduire le véhicule, qu'il se sente à l'aise. Si nous avons fait confiance à un frère, qu'il puisse réellement le conduire. Et moins il exerce la direction, l'église ou la fédération ou le regroupement d'églises ne pourra pas s'épanouir ni grandir. Il faut que la personne soit libre, se sente libre de pouvoir entraîner les autres. Et de nos jours, les sociétés, les institutions sont en perpétuelle recherche de bons et dynamiques leaders. Ce n'est pas seulement l'Église. La société a besoin de bons leaders. Les nations ont besoin de leaders qui peuvent entraîner toute une nation. Les entreprises ont besoin de leaders. Et l'Église même ne fait pas exception aujourd'hui. L'Église a besoin d'un leader. Et la vision de l'Église vient du leader. Quel est le leader que nous acceptons au milieu de nous? Même si j'ai un ministère, quel est le leader? Et le leader, c'est lui qui porte la vision. Et la vision vient de celui à qui Dieu dit, va, je t'envoie et je serai avec toi. Dieu a dit à Moïse, va, je t'envoie, je serai avec toi. Quand Moïse a reçu la vision, il dit, mais je ne peux rien, il dit, va, je serai avec toi. Et Dieu a commencé à équiper Moïse. Ah oui, je ne peux pas affronter Pharaon. Il dit, prends, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Il dit, une verge, un bâton. Il dit, voilà, jette-la à terre. Et le bâton s'est transformé en serpent. Il dit, voilà. Donc, il commençait maintenant à l'équiper dans le surnaturel pour qu'il puisse aller affronter, pour accomplir son travail, pour aller affronter Pharaon. Quand Dieu nous appelle, il va t'équiper, il va te oindre pour que tu puisses aller. Va, je t'envoie. Dieu peut faire lever quelqu'un depuis les États-Unis, venir en France, parce que Dieu l'a envoyé. Il dit, va, je t'envoie et je serai avec toi. Et quelquefois, il faudrait que nous puissions ne pas être un peu trop... Comment on peut dire ça? Ceux qui n'acceptent pas les autres au milieu d'eux. Oui, on dit, ah oui, parce qu'il vient d'Angleterre ou des États-Unis. Ce n'est pas la même conception que nous, ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même... Ah non, nous voulons... Même dans mon pays, ça se passe ainsi. Ah non, parce qu'il n'est pas de notre tribu, nous ne l'acceptons pas. Mais pourtant, c'est Dieu qui l'a envoyé. Ah, il n'est pas de mon pays, non, mais il n'a pas la même... Non. C'est Dieu qui l'a envoyé. Quand Dieu suscite un homme, vous voyez et nous l'acceptons. Donc la vision vient de celui que Dieu a établi et qualifié pour paître le troupeau, pour conduire. La vision vient de cette personne-là. La vision ne viendra jamais de plusieurs personnes. Lorsque la vision vient, où la vision est dirigée par deux ou trois leaders, comme je disais, c'est un monstre. Il ne peut pas y avoir trois leaders, ce n'est pas possible. Alors, une pensée me vient aussi, ne confondons pas les qualités techniques d'une personne administrative ou technique, Dieu peut donner à une personne avec les qualités, qualifications spirituelles. Il y a une grande différence. Je peux ne pas être instruit, mais Dieu m'a donné la vision. Ce n'est pas parce que tu es instruit plus que moi que tu vas prétendre conduire le mouvement. Ce n'est pas possible. Ou la fédération, ce n'est pas possible. Dans mon église, je me suis retrouvé avec des personnes qui sont plus instruites que moi, qui parlent mieux que moi, qui connaissent beaucoup de choses, qui ont un statut social élevé. Mais ils sont tenus d'accepter ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Parce que c'est moi. Dieu ne les a pas choisis. Tu viens à l'église, tu acceptes et tu encourages la personne qui est là. Même si mon langage n'est pas parfait, mais Dieu a mis quelque chose en moi. Ce qui est important, frères et sœurs, Dieu n'a pas le même regard que toi et moi quand on se regarde. Ah oui, quand je regarde mon frère, je commence à voir tous les défauts. Je dis, ah oui, il est ceci. Ah oui, alors il est mal habillé, il est ceci. Mais Dieu ne regarde pas toutes ses formes extérieures. Ah, il a un bon statut social. Ah, c'est une personne importante, considérée. Mais ce que Dieu voit, c'est ce que Dieu met en nous. Dieu donne des dons. Il fait don aux hommes. La Bible dit dans Éphésiens qu'il a fait don aux hommes. Donc Dieu prend de ce qui est en lui, de lui, et il met dans l'homme. Mais qu'est-ce qu'il met dans l'homme? C'est l'esprit qu'il met dans l'homme. Et quand l'esprit est là, alors ça donne la valeur à la personne. Même si la personne n'est pas instruite, même si c'est un ouvrier, même si c'est une personne qui fait les travaux de moins de valeur. Mais l'important, c'est ce que Dieu a mis en lui. Dieu choisit. Et ce choix-là relève de la souveraineté de Dieu. Personne ne peut contester le choix de Dieu. Malheur à nous si nous contestons le choix de Dieu. Et aujourd'hui, nous contestons les choix de Dieu. On dit, mais pourquoi Dieu a choisi un tel? Pourquoi Dieu a pris un tel? Mais c'est son problème. Nous acceptons. Et le problème de l'homme aujourd'hui, c'est cette soumission de pouvoir accepter. Parce que en l'homme, il y a cet esprit de rébellion, d'insoumission. Et ce monde-là nous amène vers la rébellion. On ne trouvera nulle part dans les Écritures où Dieu, pour une grande mission, va mettre deux leaders à la tête, deux leaders, ou un collège. Dieu n'a jamais fonctionné avec un collège, jamais. Ah ouais, dans mon pays, on aurait dit amen là. Merci beaucoup. Jamais. Parce que le collège, c'est la démocratie. Et nous avons tendance à copier ce qui se fait dans le monde. Et c'est ce qui tue nos églises. Parce que nous n'acceptons pas les leaders. On dit, ah, c'est la démocratie, chacun peut aller voter, chacun. Il y a un pasteur qui me racontait, il dit, il voulait s'associer entre églises avec des missionnaires qui étaient venus de l'étranger, des États-Unis notamment. Et quand ces missionnaires sont arrivés, ils disent, bon, mais nous allons travailler ensemble, mais il y aura une élection après tous les 3 ans. Ce frère-là avait commencé son ministère, il avait beaucoup d'églises. Il dit, après tous les 3 ans, il y a une élection pour un nouveau président à la tête de notre regroupement d'églises. Il dit, ah bon? Une élection? Mais quand je reçois la vision, mais qui peut me lire à la tête? Mais c'est Dieu qui m'a placé. Voyez comment le monde change les choses. Peut-être que nous pouvons mettre une personne à côté, parce que ce monde maintenant a besoin de l'administration, qu'elle fonctionne, une représentation. Mais tout ce qui est spirituel, on ne peut pas élire, frères et sœurs. Je ne sais pas comment ça se passe ici, mais malheur à nous si nous le faisons. Ah oui, on peut mettre à la place un ancien ou un diacre pour regarder les questions administratives devant les autorités. Mais la question spirituelle, mais mon leadership prendra fin quand le Seigneur m'enlèvera. Moi, j'ai dit, Antoine, je reste là jusqu'à ma mort. Je prêcherai l'évangile jusqu'à ma mort. Mais parce que j'ai une vision. Oui, mais à un moment donné, peut-être la mission va s'arrêter. Dieu me le fera savoir. En ce moment-là, il y aura une autre personne qui va prendre le relais. Et je commence déjà dans mon ministère à prier et à préparer la personne qui prendra la succession en ce moment-ci. Et je la prépare. Donc ça se prépare. Mais on ne va pas les lire. J'ai dit à toute l'église, quand je ne serai plus là, vous allez reconnaître par des signes la personne qui pourra être là. Il n'y aura pas d'élection. Malheur à vous si vous faites une élection. Malheur à vous si vous divisez les églises. Ah oui, ce n'est pas la malédiction, ce n'est pas l'intimidation. Ce sont des choses qui sont bibliques, qui sont réelles. Nous devons obéir ce qui a été mis en place. Nous ne sommes pas là pour rien. C'est qu'il y a une mission et Dieu ne plaisante pas avec nous. Souvent nous sommes légers pour les choses de Dieu, les questions de Dieu, c'est trop léger. Nous avons besoin de rester spirituels. Donc le collège est là pour soutenir, aider le leader et non pour l'orienter. On va s'arrêter Antoine. Tout à l'heure on prend le relais. Je vais recommencer par là. Donc le collège est là pour orienter. On s'arrête là Antoine. Alléluia. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ce temps de pause.